Philippe Nonni, Diego Arrabal, c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver pour un jour, un livre, un auteur. Chaque semaine, ben voilà, on aborde des sujets divers et variés.
Bonjour Philippe Subercase,
bonjour Diego Arrabal. Bonjour Philippe, les deux Philippe, bonjour, bonjour.
Oui, un Philippe peut en cacher un autre.
Un Philippe peut en cacher un autre.
Peut en cacher un autre, ça dépend la morphologie du premier. Voilà.
Oui, tout à fait. Et du deuxième aussi, parce que c'est vrai qu'on n'est pas des...
parce que ce n'est pas. Alors aujourd'hui... on va faire grand plaisir, il y a un petit moment qu'il n'avait pas travaillé
sur le polar. De toute façon, le polar, c'est, vous savez, c'est la chasse gardée de Diego Arrabal, vous avez remarqué, hein, moi j'aime beaucoup les romans intimistes, on en parlait justement l'autre jour avec les héros du grenier, bon, Diego Arrabal, lui, c'est beaucoup plus le polar, et aujourd'hui, il a décidé de mettre en exergue une auteure de polar qui s'appelle Anne Perry, et il va nous parler effectivement de plusieurs... roman de cette personne. Ben, on vous écoute. Pourquoi vous avez voulu parler d'Anne Perry d'ailleurs? Pourquoi elle? Pourquoi pas, par exemple, Agatha Christie, par exemple?
Alors, je pourrais parler de Agatha Christie, mais là, j'ai préféré parler de Anne Perry parce que vous allez le voir tout à l'heure. Elle a une petite particularité. Souvent, je suis étonné parce que quand on sait que je suis auteur de romans policiers, on me pose souvent la question de savoir comment je me documente et parfois, est-ce que je n'ai pas vécu certaines scènes que je décris. Et cette personne, on va voir qu'elle a peut-être vécu des choses comme ça. Alors, Anne Perry, c'est une écrivaine britannique. Elle naît à Londres en 1938, hein, et elle naît sous le nom de Juliette Marion Hulme. De constitution fragile, elle a plusieurs maladies pulmonaires. Dès 1944, et elle va se retrouver ballottée entre différentes familles. Son père, qui est astronome et physicien, va être sollicité pour occuper le poste du recteur de l'université de Canterbury en Nouvelle-Zélande, et il va accepter parce que, en Nouvelle-Zélande, les sanatoriums sont très réputés pour la qualité de leur air et l'aide qu'ils apportent aux personnes qui ont des maladies pulmonaires. Et donc voilà toute la petite famille Hulme qui se déplace en Nouvelle-Zélande et elle va vivre là quelque temps. Et en 1951, ses problèmes pulmonaires deviennent vraiment très graves. Elle contracte la tuberculose, elle est déscolarisée et elle est... coupée de tout contact social. Et le seul soutien qu'elle a, c'est une de ses camarades de classe qui va maintenir une correspondance assidue avec elle. Donc ça va durer quelques années. Elle est coupée du monde. Et deuxième gros bouleversement, 1954, ses parents divorcent. Et donc il décide d'envoyer Juliette... en Afrique du Sud, chez des amis à eux, pour qu'elle y poursuive ses études et qu'elle poursuive ses traitements. Et il se trouve que cette amie d'école qui maintient sa correspondance, Pauline Parker, qui est très attachée, elle veut la suivre. Et petit problème, les deux filles, elles ont 14 ans, et la mère de Pauline décide de les en empêcher. Et donc, les deux jeunes filles ourdissent un complot et assassinent la mère de Pauline. C'est une fameuse affaire qui a défrayé la chronique, qui s'appelle l'affaire Parker-Hulme, la mère de Pauline s'appelant Honora Ripper. Elle est assassinée, les deux jeunes filles attire la mère dans un traquenard, dans un parc public. Elle la tue sauvagement et puis elles disparaissent. Mais les policiers, bien entendu, arrivent assez facilement à trouver qui sont les meurtrières. Les deux jeunes filles, elles sont jugées, elles sont condamnées. Et Juliette donc, passera 5 ans en prison à Auckland, dont bonne partie à l'isolement le plus complet.
Et 5 ans, c'est pas beaucoup pour l'assassinat de...
Elles sont mineures. Elles avaient 14 ans à l'époque, hein, 14-15 ans. Donc elles sont libérées. Je pense que la sentence est peut-être plus longue, hein, mais en tout cas, elles sont libérées au bout de 5 ans. Juliette va au contact de, quand elle va pouvoir être au contact, parce qu'elle a été à l'isolement, quand elle va être en contact de certaines des autres co-détenues, elle va emmagasiner un certain nombre d'éléments qui lui auront été donnés, et ça lui donne l'envie d'écrire des romans policiers à partir de ça. Elle est libérée en 1959 et elle décide de retourner au Royaume-Uni. Elle a 21 ans. Là, elle change de nom, elle va se convertir à la religion mormone et elle va devenir hôtesse de l'air. Mais elle continue à écrire, mais n'est pas publiée. Ce n'est que 20 ans plus tard que paraît son premier livre, du moins celui qui est édité, qui s'appelle « L'étrangleur de Carter Street », qui va voir l'apparition du détective Thomas Pitt et de la sagace épouse Charlotte Ellison. Voilà, alors, cher Philippe, je vous ai passé le livre.
Vous comptez sur moi, voilà.
Je compte sur vous pour changer un peu la voix.
Alors, pour changer la voix, donc, on est sur un livre édité dans la collection 10-18, Grand Détective, dont le titre est Anne Perry, donc vous l'avez dit à l'instant, Diego Arabal, L'étrangleur de Carter Street, et je vais lire la quatrième de couverture. Suffragette avant l'heure, l'indomptable Charlotte Ellison contrarie les manières et codes victoriens et refuse de se laisser prendre au badinage des jeunes filles de bonne famille et au rituel du tea o'clock. Revendiquant son droit à la curiosité, elle parcourt avec intérêt les colonnes interdites des journaux dans lesquelles s'étalent les faits divers les plus sordides. Aussi bien le long des années 1880 n'a-t-il rien à envier à notre fin de siècle. Le danger est partout au coin de la rue, et les femmes en sont souvent la proie. Dans cette nouvelle série victorienne, la téméraire Charlotte n'hésite pas à se lancer dans les enquêtes les plus périlleuses pour venir au secours du très séduisant inspecteur Thomas Pitt de Scotland Yard. Charmante Sherlock Holmes, en jupon, Charlotte a déjà séduit l'Angleterre et les États-Unis. La voici partie à l'assaut de l'Hexagone. Elle viendrait chez nous ? Elle est venue chez nous, en France ?
Non, c'est...
L'Hexagone ?
C'est
pas l'Hexagone, la France ?
Si, si, mais c'est simplement le fait que ce roman, il est publié en France dans les années, je ne sais plus, dans 85-86. Hein.
Alors, on va
Et c'est la première fois qu'il est publié, que par Anne Perry est publié en France.
Alors, Anne Perry, 1979 en France et aux éditions 10-18, donc, c'est-à-dire en livre de poche, donc département d'univers poche, 1997.
Voilà. Et son roman est publié en Angleterre en 79 et il est publié en France en poche à partir de
97-98.
Et c'est pour ça que dans la quatrième de couverture, on dit qu'elle va découvrir la France. En fait, ce n'est pas parce qu'elle vient en France, mais c'est parce que les Français vont découvrir cette enquêtrice officieuse en jupon. Et en fait, l'intérêt de cette histoire, c'est de, pour Anne Perry, c'est de parler un peu de cette société britannique, de la haute société britannique, la grande bourgeoisie et l'aristocratie britannique, qui est quand même un milieu extrêmement fermé, qui est un milieu extrêmement xénophobe, beaucoup de racisme, etc. Et elle va le décrire comme un milieu de mort-vivant. Et la période la plus forte de ce milieu-là, c'est la période victorienne, c'est-à-dire la période qui va démarrer autour de 1870, par là, au Royaume-Uni, et qui va se terminer en 1912 ou 13, je ne sais plus à quel moment est morte exactement Victoria, mais c'est à peu près ce laps de temps. Elle a régné quand même quasiment 40 ans. Donc elle couvre une période qui est très longue, la reine Victoria, qui était considérée comme la grand-mère de toutes les monarchies européennes. Donc Anne Perry, elle va décrire cela et en fait elle fait se rencontrer deux mondes, un monde qui est celui de la haute bourgeoisie dans laquelle a vécu Charlotte Ellison qui est son épouse, et celle du détective Thomas Pitt de Scotland Yard qui lui est d'un milieu modeste et qui, comme beaucoup de policiers, est extrêmement méprisé non seulement par ses origines modestes, mais aussi parce que c'est un policier. Il est méprisé par cette haute bourgeoisie et cette aristocratie qui ne voit pas en quoi la police vient mettre son nez dans leurs affaires, eux qui sont largement au-dessus de tout. Et ce qui est intéressant dans Anne Perry aussi, c'est qu'au-delà de cette critique sociale, parce qu'on la retrouve aussi chez Agatha Christie, hein, cette critique sociale, au-delà de cette critique sociale, elle aborde aussi un certain nombre de questions morales. Et je pense que son passé n'y est pas pour rien. Des questions morales autour de la question de la faute, de la culpabilité, de la responsabilité personnelle. Et ce sont des questions autour du repentir aussi, qui, à mon avis, trouvent leur racine dans l'histoire réelle de l'auteur Juliette, puisqu'elle s'appelle Anne Perry, mais son vrai nom, c'est Juliette.
Ça, ce que vous évoquez là, dans la littérature, effectivement, de l'époque victorienne, donc notamment dans la littérature polar, hein, de l'époque victorienne, ce que vous évoquez là, le repentir, la culpabilité, etc., ce sont des marqueurs que l'on retrouve dans les romans de cette époque ou pas ?
Pas dans tous les romans. Anne Perry, elle va vraiment focaliser là-dessus, mais je pense que cette question du repentir, c'est quelque chose qui est propre à Anne Perry. Sur les romans polars autour de l'époque victorienne, alors il y en a ceux qui ont été écrits quasiment de façon contemporaine, je pense aux Sherlock Holmes, dans lesquels il n'y a pas vraiment une critique sociale, il n'y a pas une critique de la haute bourgeoisie. Holmes s'intéressant un peu à toutes les classes sociales et n'étant pas dans une posture, je dirais, de description du fonctionnement. Anne Perry, elle rentre dans la description du fonctionnement. Dans ses romans, elle montre comment, grâce à Charlotte, le détective Speed va pouvoir rentrer dans une société, dans une caste qui est totalement fermée. Et ça, c'est typique de la période victorienne. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans cette période-là, la police est considérée comme un trublion qui n'a rien à faire chez les puissants. Les puissants, ils s'organisent entre eux. Et puis, ce qu'ils peuvent faire, c'est pas très grave, quoi. Tuer quelqu'un, d'accord. Alors, quand on se tue entre puissants, peut-être, ça peut devenir intéressant. Mais lorsque les meurtres ont comme cible des gens de moindre qualité, c'est juste des broutilles, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est vrai chez Anne Perry, mais qui est aussi vrai chez un certain nombre d'auteurs de cette période-là. Enfin, Anne Perry écrivant dans les années 70 du XXe siècle, hein, donc quasiment à un siècle d'écart. Anne Perry va donc écrire un nombre très très important de romans prenant comme thème ce détective Speed et sa femme Charlotte. Mais parallèlement à ça, à partir des années 90, elle va inaugurer un autre trio de personnages, cette fois-ci, non pas un duo, mais un trio, mais vous allez voir que c'est assez intéressant parce qu'elle va continuer sur cette lancée. Elle va introduire trois nouveaux personnages, un trio autour de William Monk, un ancien policier qui a perdu la mémoire, et de deux acolytes, d'un côté Esther Latterly et un avocat, Oliver Osborne, qui enquête, eux, un petit peu avant, entre 1850 et 1860. Et là, on quitte l'enquête en tant que telle pour aborder à la fois une dimension d'enquête, mais surtout une dimension de roman de procès, puisqu'on a l'avocat. Et elle va donc s'orienter plutôt sur ce qu'on appellera le roman judiciaire. Et ces trois personnages-là sont très intéressants parce que ça lui permet d'aborder aussi, puisque nous sommes entre 1850 et 1860, un des traumatismes qui va pousser un peu plus tard les suffragettes, hein, donc on parle un peu dans la période 1880-1890, et qui va être l'intervention britannique en Crimée, qui va donner lieu à la mise en place d'un système de protection des blessés, avec notamment une infirmière qui va être, je dirais, l'archétype de l'infirmière chez beaucoup d'auteurs postérieurs à Anne Perry, et qui est Nightingale, qui est une des fondatrices à la fois d'un mouvement d'aide aux blessés, d'une mise en place des ambulances au plus près, alors que ça avait été déjà au temps de l'époque napoléonienne avec Claret, hein, qui avait été le premier à mettre en place les systèmes d'ambulances au plus près du front. Elle va mettre ça en place, mais elle va avoir une posture qui est aussi une posture très suffragette. Et elle va essayer de concilier les deux en n'étant pas celle qui vient juste pour panser les blessés et puis mettre la main sur le front parce que je suis une femme, et que, mais aussi va aller jusqu'au combat pour aller chercher des blessés, etc. Et va changer complètement l'image qu'a la femme, du moins au Royaume-Uni, durant cette période. C'est-à-dire qu'elle va mettre en évidence, Anne Perry, cette dichotomie de la société britannique qui, d'un côté, va découvrir des femmes qui s'affirment en tant que femmes et en tant qu'égales des hommes, et une société victorienne dans laquelle les femmes sont considérées comme des êtres frivoles et inférieures. Donc voilà, ça c'est aussi l'intérêt de ces deuxièmes romans. Donc là, je vous laisse lire la quatrième de couverture de cette...
C'est Des âmes mortes, donc c'est un roman qui a été publié en Angleterre en 1994 et aux éditions 10-18, donc en traduction en 2000. Pour la traduction française.
Donc là, le laps de temps est beaucoup plus réduit par rapport au premier. Voilà, hein.
C'est très rapproché, ouais. Et donc, je vais lire la quatrième de couverture. Esther Latterly est engagée par une riche famille écossaise pour accompagner une vieille dame à Londres. Son unique consigne ? Lui faire avaler son remède pour le cœur qu'elle a fragile. Dans le train, Esther se lie d'amitié avec sa patiente, lui administre les médicaments, puis s'endort. À son réveil, la vieille dame a rendu l'âme. L'autopsie révèle qu'il s'agit d'un empoisonnement et Esther, accusée du meurtre, est emprisonnée. Tous les amis de la jeune femme se mobilisent. Monk part pour Édimbourg afin d'y mener enquête avec le soutien de Rasbonne, d'Esther et de Calandra. Ensemble, ils finiront par découvrir la vérité et bien plus encore. Cette nouvelle enquête de William Monk donne l'occasion à Anne Perry de nous fournir une illustration supplémentaire de l'ingéniosité parfois perverse avec laquelle elle explore les dessous de l'Angleterre du XIXe siècle.
Et là aussi, c'est un roman dans lequel les différents personnages permettent de quitter un peu le roman d'enquête. Et on est plus là sur un fonctionnement où les trois types de regards vont se croiser, et on aura le regard de l'avocat, donc le regard d'un juriste, le regard d'un enquêteur, donc celui de Monk, qui est à la fois à la recherche d'un meurtrier dans chacune des histoires, mais qui est aussi à la recherche de son passé. Parce que lui, il ignore qui il est. Et ses amis l'ignorent aussi. C'est-à-dire qu'eux sont devenus ses amis alors qu'il a déjà perdu la mémoire. Et donc, on est là dans ces histoires où on va trouver une question sur la mémoire et sur l'oubli. Et je pense que ce n'est pas inintéressant que ce soit Anne Perry, avec son passé, qui s'interroge sur l'oubli. Et peut-être c'était aussi une façon pour elle de dire « mais il faudrait peut-être que j'occulte ». Elle l'a oublié officiellement, puisque c'est plus tard qu'on a appris, c'est dans un peu quelques années avant sa mort qu'on a appris qui elle était réellement. Hein. Mais c'est peut-être pas pour rien qu'elle met en avant là, cette question de l'oubli, à travers son personnage de Monk. Et puis, dans les années 2000... Elle va développer en 5 volumes, elle n'aura que 5 volumes, elle va développer là un quatuor. Donc un couple, un trio, un quatuor. Et ce quatuor, ce sont deux frères, Joseph et Matthew Riley, et leurs deux sœurs. Et là, on va changer un peu de côté. On va venir beaucoup plus tard et on va être à la veille et au début de la Grande Guerre. Je vous laisse lire la quatrième de couverture.
Alors, il s'agit toujours de Anne Perry, donc Avant la Tourmente, en collection 10-18. Alors, on va voir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Diego Arrabal. Donc, la publication en 2003 et en Angleterre et la traduction en 2005. On voit que...
2 ans.
Ça se rapproche sacrément. La première fois, il y a 10 ans, 6 ans et 2 ans.
Mais parce que Anne Perry est devenue une auteure connue en France et donc les lecteurs demandent. Ils savent que des bouquins paraissent au Royaume-Uni, donc ils demandent à l'avoir. Donc il y a un effet boule de neige qui va pousser les traducteurs et les maisons d'édition, notamment cette collection 10-18 sous la direction de Jean-Claude Silberstein, de reprendre cela. Et effectivement, la durée entre la parution britannique et la parution en langue française se réduit parce que, je veux dire, c'est un auteur reconnu et même très connu.
Alors, Avant la Tourmente, donc je précise, hein, c'est un roman qu'elle dédie à son grand-père, elle dit « Dédié à mon grand-père, le capitaine Joseph Révelé, qui servit comme aumônier dans les tranchées pendant la Grande Guerre, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. Avant la Tourmente, voici donc la quatrième de couve. En ce magnifique mois de juin 1914 à Cambridge, les journées s'étirent, ensoleillées, intemporelles. Mais pour Joseph Révelé, professeur à Saint John, cet été idyllique est anéanti par la mort de ses parents dans un accident de voiture. En lui annonçant l'horrible nouvelle, son frère Matthew, agent des services secrets britanniques, lui révèle que leur père lui a porté justement un mystérieux document. Les deux frères se mettent alors en quête de ce fameux dossier concernant un sinistre complot et rejoignent leurs sœurs Anna et Judith dans la demeure familiale. Reine incontestée du polar victorien, vous l'avez dit.
Je l'ai dit tout à l'heure.
Vous l'avez dit, hein,
c'est dans la catégorie. Mais je n'ai rien inventé.
Vous n'avez rien inventé. Anne Perry nous invite dans cette ambitieuse série dont Avant la Tourmente est le premier opus, vous le disiez également tout à l'heure.
Il y en aura 4 autres qui vont suivre.
Il y en aura 4 autres. À partager le destin de cette famille alors que la Première Guerre mondiale ravage toute l'Europe. Alors, il y a donc sur la quatrième de couve donc un petit extrait donc d'une critique du New York Times.
Mm-hmm.
Brillamment présenté. Voilà, excusez du peu. Brillamment présenté, ingénieusement développé et truffé d'insinuations politiques qui reflètent chaque échelon de la société anglaise.
Voilà, et c'est sur ces 5 volumes des aventures de la famille Rivelet que Anne Perry va clore ses différents cycles. Elle va cesser d'écrire en 2000 et elle va cesser d'écrire des polars et elle va se consacrer à des nouvelles de Noël ainsi que des œuvres pour la jeunesse. Elle va écrire une centaine de nouvelles et d'œuvres pour la jeunesse durant cette période-là, alors qu'elle écrit, mais elle quitte complètement le monde. Elle va dans une petite communauté en Écosse en 2003 et puis elle va y rester longtemps, elle va accepter de se déplacer un peu, et c'est au cours d'un de ses déplacements que l'année dernière, le 10 avril de l'année dernière, elle va décéder en Californie, à Los Angeles, dans une clinique de Los Angeles.
Elle était malade, parce que c'est vrai qu'elle est née en 1938, vous disiez.
Elle est
née
en 38.
Pour une personne qui avait des problèmes de santé, elle a vécu...
Elle a vécu une belle vie. Mais je pense qu'elle a...
81 ans, donc.
Oui, 81 ans. Donc c'est beau.
C'est franchement... Donc Anne Perry, hein, on
voilà,
recommande...
Donc je vous conseille...
On rappelle les titres. Hein,
alors les titres.
Avant
alors,
la tourmente. On va commencer par les premiers.
Donc,
alors Anne Perry, donc toujours L'étrangleur de 14 Street.
Alors
donc,
c'est l'inaugural de la collection Spit.
D'accord. Le deuxième, Anne Perry, toujours, donc des âmes noires, toujours chez 10-18.
Alors lui, c'est un parmi ceux-là. Je n'ai pas, pris le tout premier, là. Celui-ci, parce que moi, j'en ai quand même un certain nombre dans ma bibliothèque.
C'est celui que je préfère, là. En fait, on confie une dame âgée. On doit juste veiller à ce qu'elle prenne un médicament. Et merde, le médicament, c'est un poison. Je trouve qu'effectivement, ça donne envie d'être lu, celui-là, vraiment. Et le troisième, Anne Perry, Avant la tourmente, toujours en collection 10-18, donc en livre de poche avec une superbe donc, critique du New York Times, donc l'un des journaux phares des États-Unis d'Amérique.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci.
Voilà.
Super casé, la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
À très bientôt. On fait notre marché, mais tout va bien. À très bientôt.
Au revoir.